CFAQ.ca.
Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CFAQ.
CFAQ 88.3, l'essence de la radio.
Alors bonjour, vous êtes à l'écoute de Savoir commun et c'est la vraie première émission de la deuxième saison, alors pour la session d'hiver 2020. Et je suis en compagnie de l'enseignant en anthropologie au Cégep de Sherbrooke, Mathieu Poulin-Lamort, qui vient nous parler d'un sujet hyper pertinent en ce moment, qu'on entend aussi, on entend souvent parler de ça, et comme il me nommait avant de rentrer en onde, il y a même des pubs qui parlent aussi de cette notion-là. Et je vais laisser mon invité énoncer en fait le sujet de la semaine.
Donc aujourd'hui, Guillaume, j'ai envie qu'on parle d'identité et de génétique. Je sais pas si tu m'as dit que tu avais pas vu parce que t'écoutes pas beaucoup la télévision, mais sur Radio-Canada en particulier, il y a des publicités de Ancestry qui proposent des tests d'origine génétique qui nous promettent d'identifier quelles sont nos véritables origines. Donc en fonction d'un test d'ADN, donc on crache dans une petite capsule, on leur envoie, ils font le test de notre ADN et là ils nous disent par exemple, bon, voici le pourcentage de ton ADN qui est d'origine européenne, le pourcentage qui est d'origine amérindienne, etc. Donc ça nous dit la vérité finalement sur qui on est.
Et cette notion-là, étant donné que c'est j'imagine que ça coûte quand même un certain coût pour les gens, qu'est-ce qui, selon toi, cette idée-là est intéressante pour les gens qui veulent avoir en fait un rapport sur leur condition ou sur leur origine? Est-ce que c'est plus peut-être pour valider des privilèges, peut-être des fois avoir recours à certaines assistances peut-être gouvernementales ou même peut-être juste d'avoir un certain rapport à dire, moi, mon héritage génétique ou mes ancêtres sont de tel pays, de telle origine?
Mais pour l'instant, c'est encore des tests qui sont très à leur début. Là. Il n'y a aucun programme gouvernemental là, qui utilise les résultats de ces tests-là pour attribuer des fonds particuliers. Puis en même temps, bon, je pense que le besoin de savoir qui on est présent bien avant que ça existe, des tests génétiques. Ouais. On peut penser aux gens qui font de la généalogie, on peut penser aux gens qui essaient de retrouver leurs parents s'ils ont été adoptés. Donc, la façon de passer qui est proposée par les tests, de regarder dans l'ADN qui tu es vraiment, ben, je pense que c'est une autre manière de répondre à la question « Qui es-tu? Qui suis-je? » Mais pour l'instant, qu'est-ce que ça nous donne effectivement comme information, c'est là où l'anthropologie est plus critique et va avoir un point de vue qui va mettre en doute finalement notre capacité à effectivement identifier les véritables origines d'une personne à l'intérieur de son ADN.
En fait, comme qu'est-ce que tu dis, c'est vraiment les débuts là, de ces méthodes-là de recherche sur l'identité génétique en fait des gens. Là. Fait que c'est pas nécessairement très précis malgré tout.
Ben, ce qu'on lit sur le sujet, en fait, c'est que pour l'instant, on a des bonnes connaissances sur certaines régions du monde. Mm-hmm. Donc, on a déjà des groupes échantillons là qui nous ont permis d'accumuler des données, mais il y a tout un paquet d'autres régions où on a à peu près rien comme information. Il faut se rappeler que le décodage du génome humain, ça fait pas très très longtemps qu'on a réussi à le faire. Ça a pris 25 ans de recherche et des milliards d'investissements pour réussir à décoder le génome d'un seul être humain. Là, depuis 2010, là, on a ces données-là et la technologie rend ça de plus en plus accessible pour des compagnies qui voudraient justement se lancer dans la découverte des origines, mais aussi accessible pour le consommateur qui cherche une réponse à cette question-là. Donc, pour l'instant, on peut avoir pour 100$ un test là, tout inclus.
Un certificat de dire... tes origines sont de où?
Effectivement, c'est ça. Mais là, qu'est-ce que ça dit, effectivement, la réponse qu'on reçoit de ces compagnies-là? C'est là qu'on pourra l'analyser, nous, avec le regard anthropologique.
Et aussi, avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais aussi que tu me parles de la raison pourquoi ce sujet-là, parce que j'ai entendu dire que tu allais faire deux conférences cette session pour UPOP Sherbrooke. Alors, j'aimerais juste voir, parce qu'on me dit aussi que possiblement, ce serait le même sujet que tu allais aborder. Alors, j'aimerais, pour nos auditeurs et auditrices qui aimeraient peut-être en entendre plus parler et se déplacer à une de ces conférences-là dans le futur, que tu abordes peut-être la raison là, qui t'a mené à proposer ces deux sujets-là ou ces deux grands thèmes de ce sujet-là pour en parler, en fait, aux gens.
Mais tu as raison, je vais présenté dans le cadre de l'Université populaire de Sherbrooke au mois d'avril. Là. Les dates précises et les lieux précis sont pas encore définis. Et le titre du cours, qui va se diviser en deux temps, c'est « La fabrication de l'autre », une anthropologie des frontières. Donc, ce qui va nous intéresser dans le cadre de ce cours-là, c'est la manière dont on en vient dans nos sociétés à séparer les individus sur la base de certains traits, de certains caractères, et de constituer des catégories. Puis là, ça peut être des catégories qu'on nomme de plein de manières. Mais là, dans le cadre du cours que je vais donner, ça va être principalement des catégories ethniques qui, auparavant, on les appelait les catégories raciales. Donc, qui nous permettaient effectivement de diviser les gens selon leur origine réelle ou présumée. Donc, c'est ça qui va nous occuper. Puis, le cours va se diviser en deux temps. En première partie, on va s'intéresser justement à tout le fond de diversité humaine qui est le nôtre. On va regarder effectivement c'est quoi les connaissances sur le sujet en biologie, en génétique, dans l'anthropologie qui s'intéresse aussi à la biologie. Et le deuxième cours va porter plus précisément sur comment fonctionnent les marqueurs identitaires dans nos sociétés, qu'ils soient ethniques, raciaux, etc. Donc je pense que c'est un cours qui est nécessaire dans l'époque qui est la nôtre, une époque de frontières identitaires multiples et de crispation des fois des catégories. Donc l'objectif c'est vraiment de regarder ce qui se fait dans la littérature actuellement. Et non pas moi de présenter le résultat de mes propres recherches. Il y a certaines choses, moi je suis plus spécialisé dans le cas de la Chine, je peux montrer des exemples de comment ça fonctionne dans le contexte asiatique, mais on va essayer de ratisser plus large là, puis s'intéresser justement à l'actualité de la question.
Alors pour les gens, c'est un rappel en fait, Mathieu Poulin-Lamarre, qui est mon invité de cette semaine, va faire deux conférences en fait sur le sujet qu'on vient de nommer, là, sur la question d'identité et des frontières qu'elle comporte pour le mois d'avril pour l'Université populaire de Sherbrooke qui va avoir lieu dans un lieu qui reste à déterminer à une heure aussi. Et une date aussi à déterminer. Alors, vous allez pouvoir avoir ces informations-là sur la page Facebook de UPOP Sherbrooke ou aussi sur la page de Savoir commun qui vient d'être créée cette session-ci pour pouvoir, en fait, vous présenter tous les épisodes qui ont été passés à l'automne dernier en 2019 avec aussi les références des livres qu'on a abordés là, avec les invités. Alors, suivez-nous ou sinon, allez sur la page de UPOP. Alors, on va aller en musique en premier avant de continuer avec mon invité de la semaine.
Des fois, je m'entends, mais je me comprends pas. Je veux plus faire semblant, je suis good avec ça. Des fois, je m'entends, mais je me comprends pas. Je veux plus faire semblant, plus faire semblant. Faut crier pour qu'on s'entende. Garçonne et tendance. Moi j'écoute en attendant. Y'a plus d'importance quand c'est la vie qui a les commandes. Vaut mieux se taire. J'reste au second plan. Agile, solitaire. Je sais, je suis là. Vieux gosse, c'est tentable. J'ai switché mon monde. Ben traite à l'envers. J'me suis fait de l'ombre.
Alors, nous sommes de retour. Vous êtes à l'écoute de Savoir Comment pour la première vraie le vrai premier épisode de la saison 2020. Je suis en compagnie de l'enseignant en anthropologie Mathieu Poulain-Lamarre qui nous parle en fait de l'idée d'identité aujourd'hui dans le cadre de Savoir Comment. Alors, avant d'aller en musique, je te posais une question intéressante qui était de savoir de où que ce projet embryonnaire-là a pris forme ou pour quelle raison tu as voulu discuter ou présenter sur cette question-là.
C'est une question qui me suit depuis très longtemps, là, la question de l'identité. Puis si j'avais à faire le parcours de où ça a pu émerger chez moi, j'ai un souvenir qui me revient en tête, c'est à l'Université Laval, quand j'étais au bac en anthropologie, j'avais suivi comme cours complémentaire un cours qui s'appelait Introduction à la littérature négro-africaine. Donc, c'était le titre de ce cours-là qui était donné par un professeur africain.
C'est en quelle année, ça aussi?
Ça devait être autour de 2007, okay. 2008, quelque chose comme ça. Donc, durant ce cours-là, on ratissait très, très large. On étudiait la littérature de la Caraïbe, de l'Afrique, des diasporas aussi afro-américaines et africaines en Occident. Et à un moment donné, je pense que c'était au sixième ou au septième cours, il y a une étudiante qui lève la main puis qui demande au prof, mais est-ce que ça existe pour vrai, la race? Parce que c'est un terme qu'on utilisait semaine après semaine dans le cadre du cours. Évidemment, on parlait de la littérature noire et même le prof allait jusqu'à dire la littérature nègre parce que c'est les termes qui étaient utilisés au début du 20e siècle,
ouais,
notamment par le courant de la négritude. Et donc, est-ce que ça existe, la race? Et là, le prof s'est un petit peu tourné vers moi parce qu'il savait que j'étudiais en anthropologie. Et là, tous les étudiants me regardent, me disent, puis l'anthropologue, est-ce que ça existe, la race?
Dis-nous la vérité.
J'étais très embêté, ouais, à ce moment-là de donner une bonne réponse à cette question-là parce que la réponse est nécessairement complexe. Elle peut pas dire oui, on peut pas dire non.
Ouais, exact.
Mais la réponse simple, c'est que la race, elle existe du fait qu'on la fait exister.
Parce qu'on la nomme.
Parce qu'elle existe socialement.
C'est
elle nous permet de diviser des gens selon des critères particuliers entre une race et une autre. Et encore aujourd'hui, quand on lit les nouvelles, on cherche un homme de race noire, tu sais, où on cherche des figurants de race caucasienne. C'est pas des nouvelles qui datent de 60 ans, c'est des choses que j'ai trouvées dans l'actualité, dans la tribune, dans la presse, tout récemment. Donc, la race, c'est encore une catégorie qui existe, qui est socialement utile, qui est utilisée par beaucoup de gens. Donc, de ce fait-là, elle existe. Mais je pense que la question de l'étudiante, c'était beaucoup plus, est-ce qu'elle existe comme fait biologique, mm-hmm, que comme fait social? Et c'est là où l'anthropologie a donné pendant longtemps la même réponse. La race, ce n'est qu'une construction sociale et il n'y a aucun fondement biologique. Et pendant longtemps, ça nous a satisfait comme réponse parce qu'évidemment, c'est une réponse qui est intéressante parce que politiquement, mieux vaut dire ça que de dire il existe effectivement des différences biologiques entre les êtres humains et ces différences-là nous amènent à avoir des looks différents,
ouais,
nous amènent,
exact,
à avoir des biologies différentes et dès le moment où on ouvre cette porte-là, ça mène à toutes les dérapes possible.
Exact.
Donc, pendant longtemps, cette réponse-là, on avait fermé le coffre sur la question de la race biologique. On dit, c'est n'importe quoi. Il y a pas de frontières qui existent entre les groupes humains. Il y a rien qui nous permet de distinguer objectivement la race de quelqu'un. Puis, on était très content d'avoir trouvé cette réponse-là parce que elle fonctionnait globalement avec ce qu'on savait de la génétique humaine. Elle avait le mérite de nous faire passer à autre chose, tu sais, de penser l'humanité autrement que dans ces différences. Mais tout récemment, avec justement l'avancée de la génétique, là tout à coup ressurgit le spectre de la race. Là tout à coup, ce n'est plus la race ancienne où on est blanc ou on est noir, mais c'est la race génétique où là on peut tranquillement arriver à distinguer, selon les analyses qu'on fait, mm-hmm, des échantillons génétiques qu'on a récoltés à travers le monde, on peut distinguer des grands ensembles populationnels, des ensembles statistiques populationnels qui nous amènent à voir quand même des différences marquées entre différentes régions du monde. De plus, on a aussi étudié dans l'ADN l'héritage qu'on avait d'un métissage avec d'anciens groupes humains, d'autres espèces humaines comme Néandertal, comme l'homme de Denisova, et on s'est rendu compte que chez les Européens, il restait encore de l'ADN de Néandertal, ce qui est pas le cas chez les Africains, parce que les Néandertals n'étaient pas en Afrique, ils étaient plutôt en Europe. Et en Asie, là, on trouve du Néandertal et on trouve de l'homme de Denisov, donc dans leur ADN. Donc non, non seulement on peut identifier quand même des différences géographiques de provenance entre des groupes, mais dans certains cas, il y a des intrants dans l'ADN qui existent dans certains groupes et qui n'existent pas dans d'autres groupes. Donc là, on est face à un nouveau problème. Comment rendre compte de ces nouvelles données-là sans ouvrir une porte béante là, pour laisser entrer encore tout ce qu'on avait réussi à se débarrasser ou qu'on pensait avoir réussi à se débarrasser comme pensée raciste, comme pensée différentialiste, comme tout le courant aussi eugéniste où la pureté d'un groupe, la pureté d'une race, c'est quelque chose qui est souhaitable. Donc, c'est là où je pense que notre émission aujourd'hui puis la conférence que je vais donner va être utile parce que on peut pas interpréter les nouvelles données de n'importe quelle manière. Il faut vraiment faire l'analyse critique de ce qu'on a comme information puis se rendre compte que malgré la prétention de ces données-là à dire il existe effectivement des groupes populationnels statistiques qu'on peut répertorier, pour l'individu lui-même, de s'associer à un groupe ou à un autre, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Mm-hmm. C'est quelque chose qui n'est pas envisageable. On peut pas déterminer la race d'un individu sur la base de ces informations-là, ou son appartenance ou pas à des groupes particuliers.
Mais pour les gens aussi du commun, est-ce que tu... En t'écoutant, là, qu'est-ce que je trouve, c'est que il y a toute cette idée-là dans l'air d'aujourd'hui. Tu as parlé du racisme, tu as parlé de... Même moi, ça me fait penser aussi à la montée du nationalisme, comment on s'identifie en tant que nation, en tant que groupe, ou même privilégié. Et ça me fait penser, moi, aux Olympiques, tu sais, où que finalement, les pays s'affrontent dans des épreuves qu'on peut suivre et qui sont, en fait, indirectement, et qui, il me semble, être aussi une notion liée un peu à l'ethnie, à la race, ou que c'est, comme on entend souvent, les Africains vont dominer au sprint, ou les marathoniens aussi, ou il y a cette notion-là aussi qu'on entend souvent, ou que même encore aujourd'hui, tu sais, comme on en discutait avant de rentrer en onde, tu sais, il y a toute cette notion-là qu'on essaie de déterminer qui est l'autre, un peu comme tu as dit tantôt en introduction, là, il y a l'idée de distancer, d'aussi de s'affirmer en tant qu'individu. Est-ce qu'il y a ça aussi pour les gens là, qui nous écoutent en ce moment, qui, on entend ça. Là, tu parles là, des trucs que moi, je connais pas vraiment. Là, quand tu parles de la génétique et tu parles de la préhistoire un peu, là, des hommes néandertaliens. Ouais, exact. Mm-hmm. Mais il y a toute cette notion-là qui, aujourd'hui, moi, qui fait sens parce qu'on dirait qu'il y a toute l'idée avec l'immigration aussi qui arrive, qu'on entend puis qu'on veut dire d'où tu viens. Qui es-tu un peu? Il y a aussi ça, cette notion-là, tu sais, qu'on discutait aussi avant de venir aussi au studio, que tu me nommais que c'est une question fondamentale pour l'être humain de savoir d'où il vient. Il y a cette notion-là aussi.
Mais effectivement, c'est un thème qui peut nous amener sur plein de sujets, notamment la question du sport. Parce que les Olympiques, on s'en souvient, hein, c'est un projet eugéniste. On voulait comparer des nations puis déterminer quelle nation était la plus forte, la plus performante. Puis les Jeux Olympiques faisaient aussi le pendant des Jeux anthropologiques où on comparait les nations dites primitive. Là, on mettait sur une ligne de départ un Mohawk, un pygmée, un Touareg. On disait, OK, go, on fait une course. On faisait partir le fusible. Tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Donc, on voulait évaluer la qualité physique, biologique des nations humaines, entendues comme étant, évidemment, des races ou des ethnies. Donc, aujourd'hui, évidemment, avec l'immigration, les groupes ne sont plus ce qu'ils étaient, là, ou en tout cas, même si l'ont-ils déjà été, mais on a nécessairement des nations qui sont multiethniques et donc cette composante-là est moins présente, mais on est sur la performance sportive en fonction de l'origine ethnique, puis effectivement, tous les préjugés sont permis. Les Noirs courent plus vite que les Blancs, les Kenyans, puis les Marocains, puis les Éthiopiens, ils dominent à course de fond, mais sont très très peu performants dans la piscine. Donc, tout est permis, tu sais, comme analyse rapide. Les généticiens, les spécialistes du sport ont pu étudier ces questions-là et sont rendus compte qu'il y a une grande partie de ces phénomènes-là qui sont explicables par des raisons environnementales. culturel. Mm-hmm. Donc, dans quel monde on grandit? Qu'est-ce qui va faire que t'es bon au basket? C'est-tu le fait d'être noir ou c'est le fait d'être naître aux États-Unis à une certaine
dans
époque, dans certains quartiers,
ouais.
avec tout ce qui vient avec, justement, le street culture, puis tout ça. Donc,
ou l'altitude pour les coureurs de
effectivement, effectivement, s'entraîner en altitude depuis le plus jeune âge, et ça a un effet sur les capacités physiques. Mais il y a aussi une partie qui vient de notre potentiel génétique, puis ça, tout le monde en a un potentiel génétique pour faire des choses. C'est pas tout le monde qui l'utilise pour devenir le meilleur dans son sport, mais le rendu en compétition hyper élevée, notamment les Olympiques, c'est souvent cette différence-là qui va jouer, qui va faire en sorte que tu vas gagner 100 mètres ou tu vas finir troisième. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, on peut pas vraiment écarter ce facteur-là. Tu sais, c'est tout le monde sur la ligne de départ n'est pas équivalent d'un point de vue génétique. Ce n'est pas que l'environnement puis l'effort qui va faire en sorte que tu vas gagner 100 mètres. Donc, ça aussi, c'est un autre dérapage potentiel. Dès le moment où on s'intéresse aux différences génétiques, là, on peut dire, ben voilà, on a des groupes soi-disant raciaux qui ont plus de performance dans certains sports. Et donc, là, on ouvre une autre porte. Est-ce que ça marche aussi pour l'intelligence? Est-ce que ça marche aussi pour d'autres types de talents? Et là, c'est là où il faut vraiment faire attention à ce qu'on nomme comme conclusion, puis regarder si on est vraiment rigoureux dans ce qu'on fait. Tout ce qui est l'analyse de l'intelligence, c'est largement décrié par tout un paquet de gens. Dès le moment où on lie l'intelligence avec l'origine ethnique d'une personne, là, on fait fausse route. Parce que on est en train de faire des approximations, on est en train de faire des généralisations, puis on élimine la composante la plus importante, c'est-à-dire la culture, l'enseignement,
exact.
L'éducation. C'est ça qui est la majeure partie qui va te permettre de réaliser un test d'intelligence, puis d'avoir un QI de 175 ou d'avoir un QI de 43.
C'est ça qui est intéressant, parce que tu nommes des points qui sont encore très pertinent aujourd'hui. Je veux dire, on entend souvent beaucoup de choses, même dans des discussions là, très banales là, aujourd'hui dans les milieux de travail, par rapport à ça, ou cette idée-là des origines des gens par rapport à leur rendement au travail ou par rapport à leur manière d'être. Mais tu viens de nommer le point, je pense, qui est très fort, c'est la culture, c'est comment la personne a été éduquée, l'apprentissage qu'elle a eu, qui fait beaucoup plus de sens que juste dire « Ah, cette personne-là, elle vient de tel coin du monde. » Alors, nous devons... Parce qu'on est un peu de même aujourd'hui. On stéréotype beaucoup. Il y a un clivage aussi entre beaucoup les groupes, on dirait. Quand tu as un nom à consonance différente, étrangère, les gens vont avoir un rapport différent avec toi. C'est en fait pour ça que je trouve ça intéressant, le sujet de la semaine avec toi, parce que je pense que ça tombe à point avec beaucoup de choses qu'on entend, qu'on voit dans les médias aussi, puis qu'on nous-mêmes, on répète peut-être quotidiennement ou même dans nos milieux de travail ou même à l'école ou dans la vie, là, tous les jours avec les gens qu'on croise, les étrangères et les étrangers. Là.
Ce qui est intéressant de voir, c'est que pour nous, dans notre époque, dans notre société, c'est des catégories qui vont de soi. Dès le moment où on regarde un phénomène, on va faire l'analyse en termes de catégories ethniques visuelles et non pas des catégories ethniques réelles. Donc, on va regarder la composition d'un groupe, on va regarder qui se distingue. Là, ça va être très, très facile de faire des généralisations sur la base de l'ethnicité. L'ethnicité présumée, parce qu'on regarde des gens avec des couleurs de peau puis avec des formes de visage particulières. Mais si on prend un petit peu de recul, puis on se dit, est-ce qu'on fait le même travail avec la couleur de cheveux, avec la couleur des yeux, avec la grandeur d'une personne, avec son âge, etc., on se rend compte que c'est des éléments qui, même si des fois ils sont présents, sont beaucoup moins forts dans notre capacité, dans notre volonté de faire des abstractions, des généralisations. Jamais quelqu'un va dire, on sait bien, les blonds sont tellement bons en surf. C'est jamais arrivé.
Exact, ouais.
Pourtant, c'est un marqueur génétique qui est visuel, un peu comme la couleur de la peau. Mais on le fait pas, on divise. C'est déjà arrivé, mais on le fait plus beaucoup. Moi, je lisais une ethnographie d'un chercheur américain qui est allé à Saint-André de Kamouraska dans les années 30. Et il rapporte que la population locale se divisait entre deux catégories, les Normands et les Gascons. As-tu déjà entendu parler de ces catégories-là?
Non.
Ben, moi non plus. Mais à une certaine époque, au Québec, il y avait une certaine homogénéité ethnique, on peut l'imaginer, là, avant qu'arrivent les grandes masses de migration. Il y avait des gens héritiers de la colonisation française, il y avait des Irlandais par-ci, par-là, mais grosso modo, les marqueurs qui nous permettaient de différencier les uns des autres, c'était des marqueurs entre blancs. Donc, les Normands étaient ceux qui étaient plutôt grands, avec les cheveux, la peau, les yeux plus pâles, donc les cheveux blonds châtains, les yeux bleus, une peau plus pâle. Et les Gascons, c'était des gens qui auraient une origine plus sudiste, là, du point de vue européen, là, une peau plus foncée, évidemment les cheveux foncés, les yeux foncés, avec une stature un peu plus trapue, moins grand, moins effilé. Donc, c'est des catégories qui ont disparu, mais qui, probablement, à cette époque-là, jouait le même rôle que nos catégories ethniques actuelles. C'est-à-dire, ah, tu sais, les Latinos d'un côté, les Arabes de l'autre côté, pour nous, ça vient avec tout un paquet de stéréotypes, avec un tout un paquet de préjugés. Ben, à l'époque, potentiellement, être de type normand ou de type gascon pouvait venir aussi avec tous ces préjugés-là. Donc, il n'y a rien d'obligatoire dans la manière dont on divise les choses puis qu'on crée nos catégories. Ces catégories-là ont une histoire et la manière dont elles fonctionnent aujourd'hui est tout à fait contingente. Ça aurait pu ne pas se passer comme ça. Et il n'y a rien qui nous garantit que ça va être comme ça dans le futur. Puis, quand on regarde l'histoire, on se rend compte que les catégories étaient vraiment très, très différentes à une certaine époque.
Et j'aimerais aussi peut-être que tu précises sur, et pour moi le regard que j'ai là-dessus sur cette idée-là de déterminer les origines, j'ai tendance à croire qu'il y a un héritage aussi colonial de ça, ou que c'est les puissances qui ont décidé à des moments de commencer à classifier les origines des membres des pays où qui décidaient d'aller aller s'installer et prendre des ressources, ou utiliser aussi peut-être même la main-d'œuvre humaine là, en tant que telle. Est-ce que c'est ce point-là qui est aussi dans l'histoire là, ou de la classification des races qui est important de nommer, ou je fais fausse route?
Non, au contraire, c'est fondamental. Bon, si on dit qu'on est héritier de catégories, nécessairement, elles viennent d'une histoire particulière. Ce qui est intéressant, quand on regarde la littérature du 15e siècle, c'est que la question de la race est absente. On ne divise pas les gens sur la question de la couleur de leur peau, sur la question de leur race. On divise les gens sur leur naissance. Est-ce que tu es né libre ou esclave? Est-ce que tu es né dans l'élite ou tu es né dans les classes les plus pauvres? Et donc, on peut voir...
Il y a un basculement.
On peut voir des Noirs qui occupent des fonctions qui sont tout à fait respectables. Mm-hmm. Il y en a un personnage historique qui s'appelle Mathieu d'Acosta, qui a participé aux expéditions européennes en Amérique du Nord, qui était traducteur, polyglotte, et donc qui était un homme libre, comme tous les autres, qui était embauché parmi l'équipage et qui, lui, jouait son rôle en particulier. Donc, c'était bien avant qu'on ramène systématiquement chacune des personnes noires à un rang inférieur et un rang potentiellement d'esclavage. Apparaît la notion de race au 17e siècle.
Pour quelle raison?
Et c'est ça qui chicote un petit peu les historiens. Pourquoi tout à coup
on a fait
naît
ce changement-là, ouais,
catégorie-là? Et ce qu'on constate, c'est qu'elle avait une fonction fondamentale pour le système économique qui était en place. On se rappelle qu'au 17e siècle, on a un commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Et en Amérique, qu'est-ce qui se passe? Dès le moment où on a conquis, je dis le « on », mais c'est vraiment l'Europe a conquis l'Amérique, les Amérindiens ont été réduits en esclavage et rapidement, ça les a décimés à cause des maladies, à cause des mauvais traitements. Donc, ils mouraient très jeunes et à un certain moment, on a des récits des missionnaires et des religieux espagnols. Ils font état d'une crise fondamentale là, des sociétés amérindiennes.
Manque du monde.
Et ils arrêtent de se reproduire, ils tuent leurs propres enfants, ils vont même jusqu'à se suicider pour éviter d'être sous le joug des Espagnols. Donc, il y a des humanistes comme Bartolomé de Las Casas qui vont défendre la cause des Amérindiens auprès du pape, puis vont dire ces gens-là sont des humains comme vous et moi. Nous devrions, tu sais, s'assurer que ces gens-là puissent jouir d'une liberté égal à celle de tous. Parce qu'ils ont une âme, parce qu'ils potentiellement sont appelés à rentrer dans le même paradis que nous. Donc, on devrait reconnaître l'humanité des Amérindiens. Ce que le pape va faire. Il va faire une... Il va, dire une bulle papale, là, c'est les termes de l'époque, et il va décréter que les Amérindiens sont des humains. Sauf que c'est un problème pour l'esclavagisme, parce que si le moment où tu dis « tous les hommes sont égaux », ben t'es obligé nécessairement de réhabiliter ces gens-là, puis arrêter de les exploiter. Et là, il y a toute une entreprise de déshumanisation des Noirs africains, qui, elle, va servir à compenser la perte des esclaves amérindiens. Et donc, toute l'énergie qu'on va mettre pour déshumaniser les Africains va faire émerger ce concept-là qui n'existait pas auparavant.
C'est un grand projet de race. D'aller chercher des gens en Afrique, des ramener en Amérique, puis des faire travailler, puis décider finalement que ton économie roule d'une certaine manière. Puis je pense que dans une discussion ultérieure, tu m'avais parlé même que c'est ça, c'est pour des raisons presque aléatoires que ces gens-là ont été choisis. L'histoire aurait pu être écrite d'une autre manière.
Ben, ça faisait bien l'affaire.
C'est ça, exact.
Des colonisateurs espagnols et européens en général, d'avoir une main-d'œuvre quasi illimité qui était disponible en Afrique et qui, avec des traits puis des caractères physiques qui étaient faciles d'identification pour dire il existe deux types d'humanité, celle qui est destinée à être libre et celle qui est destinée à être asservie. Puis on va réinterpréter tout un paquet de mythes bibliques pour légitimer cette entreprise-là.
Ouais, c'est ça.
On va relire la Bible, on va dire « Ah, regardez, il y a la malédiction de Cham dans l'Ancien Testament. Voilà l'origine du peuple noir. Et c'est la malédiction de ce peuple-là qui nous permet aujourd'hui
fait qu'on de a les instrumentalisé exploiter. En fait les écrits bibliques pour une entreprise économique.
C'est l'histoire des écrits bibliques d'être instrumentalisés là. Et à chaque époque on les a utilisés pour servir un certain nombre d'idéologies. Ouais. Mais à ce moment-là, on a vraiment relu tous les passages pour montrer que c'était tout à fait chrétien d'embarquer dans le circuit esclavagiste puis d'exploiter les Noirs comme on exploiterait des animaux d'une certaine manière. Donc d'un point de vue mythique, on va travailler de ce côté-là. On va aussi écrire dans les lois l'infériorité naturelle des Noirs. Donc, en France, apparaît le Code noir au 17e siècle, où là, c'est écrit noir sur blanc, le nègre est un meuble. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec un meuble?
Au 17e siècle, ça fait pas si longtemps que ça, quand
non,
même.
Mais, on parle quand même de là, 300 ans, mais au 20e siècle lui-même, il y avait encore des atrocités. Donc, si on veut parler de là, pas si longtemps, on pourrait regarder dans les années 90.
Ouais, il y a encore, il y a 2000, des choses, oui.
C'est pas terminé. T'sais, l'esclavage existe encore sous d'autres formes. Il existe encore tout un paquet de mécanismes dont on a hérité qui procèdent de la même manière.
Même au Canada.
Ben, tout à fait.
Comme on avait discuté dans l'émission de l'automne dernier.
On est sorti récemment l'essai Noir sous surveillance qui montre à quel point, justement, la différence raciale elle est présente dans les pratiques politiques, les pratiques de police au Canada. On a l'impression que c'est le cas des États-Unis, le profilage, les arrestations abusives, les emprisonnements massifs, mais c'est exactement la même situation ici. À part que c'est évidemment en moins grand nombre, là, tu sais, on est dans une plus petite population. Donc, toute cette histoire-là fait naître au 17e siècle l'idée de race. Et là, après ça, pendant des siècles, on va continuer à insister sur la réalité de ce concept-là. Et les anthropologues vont être parmi ceux qui vont travailler le plus fort pour la faire exister. On parle des premiers anthropologues, les premiers anthropologues physiques qui vont mesurer des angles faciaux de front, ils vont mesurer des nez, ils vont vraiment essayer de voir qu'est-ce qui nous permet d'évaluer à partir des mesures qu'on fait sur le crâne, sur le corps, sur la taille du cerveau, comment on va évaluer une hiérarchie entre les humains qui place de toute façon, on le sait déjà à la conclusion, les blancs au sommet et les noirs à la fin. Donc, c'est une histoire qui est dramatique, tu sais, d'un point de vue intellectuel, là, de voir à quel point on fausse les données pour qu'ils correspondent aux conclusions qui sont déjà écrites d'avance. On se dit, mais ça n'a aucun sens que, en tout cas, moi, je trouve que ça n'a aucun
sens. Parce que la médecine a été quand même partie prenante de toute cette entreprise là de rendre de déshumanisation là, si je vais mettre le mot là quand même, c'est quand même ça qu'on a voulu faire puis qu'on fait quand on catégorise les groupes ethniques d'une certaine manière.
Mais la médecine, l'anthropologie, la sociologie, la psychologie, je veux dire tout le monde pensait dans ces termes-là et avait les mêmes présupposés. Bon, c'était une science qui était évidemment pas démocratisée.
Ouais.
Hein? Elle était l'apanage d'un certain groupe, une minorité qui était une élite, qui était nécessairement d'origine européenne, qui occupait toutes les fonctions de pouvoir dans toutes les sphères de la société. Donc, c'est pas étonnant, c'est décevant, mais c'est pas étonnant qu'effectivement, il ait juste reproduit les mêmes schèmes qui étaient les schèmes racistes dont il héritait. Ça a pris des luttes immenses, puis des mobilisations immenses aussi pour réussir à se sortir un petit peu de ces catégories-là, puis de penser au-delà de ça, au-delà de la race et au-delà du racisme. Donc,
fait que merci pour ce petit retour sur l'histoire, parce que je voulais qu'on en parle, c'est quand même intéressant, et j'aime tout le temps t'écouter, me raconter ces histoires-là et ces propos que tu connais, que j'oublie tout le temps. À chaque fois, je suis émerveillé, et puis je trouve qu'on oublie souvent ça. T'sais. C'est pour ça que je parlais tantôt des Olympiques, puis que je pense que pour beaucoup de monde, t'sais, surtout avec les cours d'histoire qu'on a eu au secondaire, puis même au cégep, on aborde la question de l'esclavage ou la question de l'ordre comme si aujourd'hui on vit dans une société où que tout est réglé, que Justin Trudeau a pleuré pour les Amérindiens ici au Canada, il s'est excusé, c'est comme ça l'efface l'héritage, mais je pense que c'est nécessaire des fois aussi de nommer que quand même on porte quelque chose, puis il faut quand même aussi dire que aujourd'hui sous d'autres formes, comme tu l'as nommé tantôt en nommant Noir Surveillance, le livre qui a été publié chez Lux, qu'il y a des notions qui sont encore présentes, puis que on pense qu'en étant aussi, puis je pense que au Québec, au Canada aussi, on pense qu'on est privilégié, mais qu'on oublie cette distance-là des fois pour les gens qui sont soit exclus ou qui sont déshumanisés par soit leur pratique, leur travail ou la manière qu'on porte un jugement sur eux. Fait que merci.
Ben, c'est un grand plaisir.
Alors, nous allons tomber un peu plus dans le sujet, en fait, après ce petit tour historique. Et il y avait quelque chose quand même que je trouvais intéressant là, que tu m'avais parlé, c'est toute la question de vérité qui est liée à cette identité-là là, qu'on essaie de produire, en fait, par ces tests-là que tu nommais en introduction de l'émission là, sur l'idée. Parce que c'est quand même, on utilise la médecine, on utilise la science pour proposer quelque chose qui est vrai, qui est véridique. Et ça, c'est quand même quelque chose que j'aimerais t'entendre là-dessus parce que je trouve ça intéressant quand tu m'en parles.
Ben, quand on parle de vérité, faut vraiment le voir comme un concept philosophique. Dans le sens où la vérité, on peut jamais savoir si elle est vraie ou elle l'est pas, dans l'absolu. T'sais. Il y a des tests scientifiques qui nous permettent de tester certaines hypothèses. Donc, il y a un chemin pour arriver à la vérité, et ce chemin-là varie selon les époques. Donc, de faire l'histoire de la vérité, c'est nécessairement de faire l'histoire de ces chemins qui nous permettent de déterminer ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Donc, faut pas penser que aujourd'hui on est dans un monde éclairé, un monde de vérité ou un monde qui est plus vrai, où les conclusions sont plus vraies que les conclusions qu'on portait là 100 ans. Et on pourrait tout à fait imaginer qu'il existera dans 100 ans d'autres vérités qui vont fonctionner comme vraies, puis qui vont disqualifier nos vérités d'aujourd'hui. Donc, faut essayer de regarder ça d'un point de vue tout à fait critique, puis
en mouvement, c'est ça.
D'éviter justement de nous-mêmes rentrer dans ce jeu-là et d'établir bon, voici la vérité, voici ce qui n'est pas la vérité. Ce qu'on peut constater, c'est que on est dans un monde où la question de l'identité est au fondement de beaucoup de nos processus sociaux, de nos catégories sociales. On vit entouré de ce concept-là d'identité, l'identité de soi et l'identité de l'autre aussi. Et là, c'est là où on fait le lien avec l'histoire de la vérité. Parce que comment on fait pour s'identifier soi-même, comment on fait pour identifier l'autre comme autre, ben ça a nécessairement à voir avec le chemin vers la vérité qu'on utilise aujourd'hui. Donc, par quel chemin de vérité on passe pour identifier les personnes, pour les associer à des ethnies, pour les associer à des cultures, pour les associer à des identités particulières? Ben, c'est un chemin qui trouve son histoire, trouve son origine, évidemment, dans dont on vient de parler, de toutes les catégories raciales qui étaient utilisées il n'y a pas si longtemps, qui ont cédé la place à des catégories ethniques qui étaient jugées plus objectives et moins idéologique. Et aujourd'hui, on est dans tout un paquet de catégories. La culture en est une. On parle de personnes racisées, on parle de personnes des communautés culturelles, on parle de... Bref, on nomme la différence d'une autre manière, mais au fond, on ne change pas beaucoup les paramètres qui nous permettent d'établir c'est quoi ces frontières-là entre soi et l'autre. Donc, aujourd'hui, ce chemin d'accès à l'identité, on voit que il emprunte différents chemins. Tu sais, on regarde la personne devant soi, on est capable de voir un certain nombre de choses, des traits, une couleur de peau, une couleur de yeux, des grandeurs, bref, des catégories, des éléments qui nous permettent d'associer la personne à une catégorie particulière. Mais il y a d'autres éléments qui nous donnent ces informations-là, comme par exemple le nom de la personne, t'en as parlé tout à l'heure, son accent,
la langue
qu'elle va parler ou les langues qu'elle va parler. Et aujourd'hui, là, tout à coup, s'ouvre une nouvelle porte qui est celle de la génétique. Et là, la promesse de la génétique, c'est d'avoir enfin la vraie réponse sur l'identité et de dire, bon, voilà, plutôt que de penser que je suis d'origine amérindienne par mon arrière-grand-mère, ben je le saurai de façon tout à fait claire grâce à un test génétique qui va me le dire. Mm-hmm. Quelle est la proportion de moi qui est amérindienne, quelle est la proportion de moi qui est européenne, quelle est la proportion de moi qui est peut-être afro-américaine ou latino-américaine, que sais-je. Donc, cette promesse-là, évidemment qu'elle est attendue, on y croit parce que c'est ça qu'on souhaite se connaître à travers ces catégories-là. Sauf que, on le verra peu à peu, c'est une promesse qui est malheureusement décevante quand on regarde la réalité des résultats qu'on
reçoit. Parce que c'est quand même le début de ces recherche-là ou de ces résultats-là sur, comme tu nommais tantôt, c'est les tests sont faits sur un groupe test, puis après on essaie de dire on voit des similitudes avec le groupe test X, et ce groupe test-là en fait peut représenter un groupe d'appartenance comme écossaise, et finalement on n'a pas vraiment, comme tu nommais, 50, si on dit 50% d'écossais, c'est pas réellement que t'as 50% de ton héritage génétique, c'est qu'il y a 50% qui est associé au groupe test, possiblement.
C'est la conclusion de plusieurs chercheurs en biologie, là, notamment Marcus Feldman de Stanford, qui dit quand on reçoit les résultats de ce test-là, puis là ça dit 30% européen, c'est pas 30%, presque un tiers de ton toi, de ton identité qui est européenne, c'est que t'as 30% de chance que t'as des liens potentiels avec un groupe façonné d'une manière particulière dont on n'a pas l'information, qui donc c'est des possibilités statistiques. Donc on est pas mal moins sur l'objectivité. Faut comprendre que le génome humain, quand on est capable de le décrypter, ça ressemble à un long texte qui est très très long là, parce que ça prend énormément de code là, pour le constituer.
C'est un ordinateur qui...
Et dans ce long texte-là, on a des protéines qui composent les gènes, qui composent notre génome, et ces protéines-là, il n'y en a pas une qui est associée plus particulièrement à l'Espagne, il n'y en a pas une qui est associée plus particulièrement au Canada ou aux Amérindiens. C'est une variabilité immense d'un groupe à l'autre, puis aussi au sein des groupes. Donc, si on prend un groupe très homogène, là, si on prend, par exemple, les Tasmaniens, là, qui ont été isolés du reste du monde pendant 10 000 ans, puis ils se sont reproduits entre eux, donc ils ont une certaine homogénéité ethnique, si on regarde leur génétique, on constate qu'il y a, malgré tout, une immense variabilité génétique au sein même de ce groupe-là. Donc, il y a des caractères qui partagent entre eux, mais il y a des caractères qui ne partagent pas du tout les uns avec les autres et qui sont plutôt aléatoirement distribués. Et ça, c'est vrai pour un groupe très homogène. Imagine pour un groupe très hétérogène, comme l'Europe peut l'être, comme la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne peut l'être, où il y a des vagues de migration historique qui ont rebrassé, évidemment, le matériel génétique local génération après génération. Donc, comment faire pour lire le texte de ton code génétique puis de l'associer à celui, par exemple, des Français? C'est là où le chemin pour y parvenir est parsemé de plusieurs embûches. Il y a plusieurs limites pour nous amener à y parvenir, mais les tests génétiques font vraiment de la statistique. Ils disent, bon, voici ce qu'on retrouve dans le pool génétique de la France, défini d'une manière, donc on ne sait pas. Et voici ton pool génétique. Il y a des occurrences, il y a des choses qui se ressemblent, donc potentiellement, il pourrait y avoir une parenté. Mais elle est présumée. Elle est toujours présumée.
Fait que c'est un peu triste, un peu, qu'est-ce que tu nommes, même si c'est quand même c'est une nouvelle perspective qui, selon moi, est quand même intéressante, mais pour certaines personnes, peut-être qui nous écoutent, ou même des gens qu'on connaît, c'est d'entendre ça, c'est peut-être... Il y a des gens qui s'attendaient à être rassurés par cette idée-là d'avoir une vérité presque immuable par rapport à la génétique, puis que finalement, tu es en train de remettre ça en perspective en disant, ben nécessairement non, c'est pas nécessairement la vérité.
Ben, c'est comme les gens qui trouvent rassurant de suivre un régime amaigrissant, puis que finalement la conclusion c'est ben peut-être que le mieux c'est de t'accepter toi-même, puis t'aimer comme tu es plutôt que de chercher à être quelqu'un d'autre.
Ouais.
Je pense que la même logique peut s'appliquer dans cette quête infinie des origines puis de l'identité. On est nécessairement des êtres complexes, des êtres métissés. Faut vivre avec ça. Puis ce métissage-là, ben, il est obscur parce que effectivement, on a perdu la trace de ces origines-là. Même si on faisait la généalogie sur 16 générations, c'est très très peu sur l'ensemble de l'histoire humaine. Donc ça nous dit très très peu de choses sur qui on est, ces origines-là. D'autant plus que culturellement, on est pas mal plus proche du Coréen qui vit à Séoul que de nos propres arrière-grands-parents. On peut plus dialoguer probablement avec quelqu'un à l'autre bout du monde que si on rencontrait le spectre de notre arrière-grand-père, où là, ni les référents culturels, ni le mode de vie, ni le langage pourraient trouver une compatibilité.
C'est vraiment intéressant, là, ça, cette idée-là, là, de finalement qu'on doit se rattacher peut-être à d'autres points que juste cette question génétique. Alors, on va aller en pause parce qu'il faut que vous écoutez des publicités.
L'essence de la culture.
Alors, nous sommes de retour à Savoir commun. Mon nom est Guillaume Cabanet. Je suis en compagnie du prof d'anthropologie Mathieu Poulin-Lamarre qui nous parle, en fait, aujourd'hui de la race, aussi de le bagage génétique. Et quand on parle de la race aussi, on est embarqué en onde avec l'idée de dire qu'il y a des entreprises en ce moment qui monétisent un peu l'idée de valider l'héritage génétique en affirmant pouvoir vous dire de quelle origine vous êtes, en sollicitant finalement une certaine somme d'argent, et on vous envoie un certificat pour vous dire quelque chose qui pour vous pourrait être une sorte de vérité et qui pourrait vous rassurer aussi sur d'où que vous venez.
Si jamais il y en a qui viennent de se joindre en onde, on parle de la race d'un point de vue critique.
Exactement.
La race comme catégorie sociale et non pas comme réalité biologique, c'est très important de le mentionner, parce que on marche sur de la dynamite, évidemment,
exact,
quand on aborde ces questions-là.
Et aussi, avant d'aller aussi en publicité, Mathieu, on a fait un retour bref là, sur historiquement d'où que ça vient, c'est quoi les origines. On a parlé des empires coloniaux qui ont décidé à un moment de commencer à catégoriser les membres des sociétés avec des mesures, avec des manières d'identifier des caractéristiques qui sont peut-être différentes pour justifier des manières d'agir avec certains groupes d'individus. Et aussi, on a parlé beaucoup des différences qui sont peut-être présentes ou qu'on essaie en fait de valider selon un certain régime de vérité pour permettre de catégoriser les groupes et les identités. En fait, parce qu'on admet aussi que les identités sont importantes aujourd'hui encore, c'est la manière aussi qu'on se présente, c'est la question fondamentale aussi, même en philosophie, de d'où je viens, qui je suis. Et aussi, j'aimerais, là, pour une autre partie de l'émission, là, Mathieu, que étant donné qu'on a parlé beaucoup des différences, j'aimerais peut-être que tu parles peut-être des points qui sont rassembleurs ou qui sont les liens communs qu'on a entre nous pour l'espèce humaine, étant donné qu'on est tous pareils au final. Mm. Puis c'est un peu ça qu'on disait avant d'aller en pause, là, de cette idée-là, là, d'identité, que on est beaucoup plus proches les uns des autres qu'on le pense. Puis ça, j'aimerais qu'on aborde ça parce que c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent.
Quand on regarde justement la carte qui est créée, quand on décode le génome, cette espèce de long texte, puis qu'on compare un individu avec l'autre, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est le même texte. Du début à la fin, c'est grosso modo le même texte. À 99,9%, là, c'est les mêmes lettres qui se trouvent aux mêmes places. Donc, pour essayer d'évaluer quelles sont les différences entre un individu et un autre individu, il faut vraiment chercher. Trouver à quel endroit sur le génome il y a une variation qui amène à une différence. Et là, sur l'ensemble du génome, il y a toute une partie qui est codante, là, qui nous amène à avoir des traits, des éléments qu'on peut mesurer, identifier. Puis il y a toute une partie qui fait partie de l'ADN poubelle. On sait pas trop à quoi ça sert. Puis donc, il y a des différences là aussi, mais comme on sait pas trop qu'est-ce que ça fait, on sait pas trop qu'est-ce que ça amène comme différence. Donc, c'est une petite partie de notre ADN qui sert à quelque chose.
Qui est valable.
Puis il y a une petite partie de ça, une infime partie qui varie d'un individu à l'autre. Donc c'est vraiment sur cette petite partie-là que on a assis au fil de l'histoire tous les mécanismes de discrimination liés à la différence biologique entre des êtres humains. C'est un peu vertigineux d'y penser, d'autant plus que justement si on regarde l'être humain comme espèce, on constate que c'est une espèce, comparativement à d'autres espèces, c'est très, très, très homogène. On regarde juste notre parenté au niveau de l'espèce. Là. On a les chimpanzés qui sont actuellement nos plus proches parents encore vivants. Donc, de qui on est séparés par à peu près 4 millions d'années d'évolution distincte. Donc, le 4 millions d'années, on avait un ancêtre en commun qui a eu deux enfants, un qui est devenu les chimpanzés, puis un qui est devenu les êtres humains. On peut résumer ça à cette situation-là. Les chimpanzés, entre eux, sont infiniment plus diversifiés génétiquement que nous le sommes comme espèce. Même chose pour les gorilles, même chose pour les orang-outans. Entre les orang-outans, entre les gorilles, il y a une variation génétique qui est beaucoup, beaucoup plus grande que entre les êtres humains. Et donc, ça, c'est une énigme parce que qu'est-ce que ça veut dire au fond? Ça veut soit dire que on a toujours remixer nos gènes au fil de l'histoire. Donc, on a rarement été tellement séparés qu'on a pu rester assez proches pour que les gènes, les nouveaux gènes qui apparaissent au fil de l'évolution, qui puissent être distribués à peu près également dans toutes les populations du globe. Donc, ça peut être cette hypothèse-là. Mais ça peut être aussi que l'être humain est héritière au fond d'une petite population qui a survécu seul alors que la plupart des autres branches humaines ont disparu. Puis c'est probablement ça qui est arrivé, ce qu'on appelle en génétique un goulot d'étranglement, un bottleneck. Donc, qu'à un moment donné, une grande population, là, on peut imaginer qu'elle est présente en Afrique, on a des proto-humains qui sont présents à peu près à tous les coins de l'Afrique, et sur l'ensemble de ces populations-là qui sont distinctes, qui ont des variations génétiques particulières, il y en a une seule qui va réussir à survivre, par exemple, à cause de changements climatiques extrêmes, à cause de phénomènes cataclysmiques qui ont entraîné une diminution considérable de la population. Donc, dans un cas de bottleneck, de goulot d'étranglement, donc une grande partie de la diversité disparaît et il reste un tout petit groupe avec des éléments très homogènes qui, eux, vont donner naissance au futur de l'espèce. Et pour l'être humain, c'est un peu ça qui a pu se passer. Comment? Il y a plusieurs hypothèses. Il y a des chercheurs qui ont identifié une éruption volcanique majeure là, qui est inégalée depuis le mont Toba en Indonésie, qui aurait recouvert la planète d'un nuage de cendres et qui aurait amené l'extinction de plusieurs espèces particulières et notamment de beaucoup d'êtres humains qui étaient dépendants des espèces qui potentiellement étaient moins présentes. D'autres chercheurs pointent plutôt vers un long goulot d'étranglement qui se serait échelonné sur des milliers d'années. Et donc, le petit groupe aurait été petit pendant très 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 longtemps avant de reprendre en nombre puis de finalement migrer puis de coloniser toutes les espaces sur la Terre. C'est aussi une possibilité. Dans tous les cas, notre diversité humaine, elle est très petite. Et malgré les différences qui nous apparaissent phénoménales entre les groupes humains, entre les Africains, les Asiatiques, les Européens, les Autochtones de l'Amérique du Nord et du Sud, si on regarde les codes génétiques, on se rend compte qu'on est grosso modo face à peu près les mêmes personnes. Donc, qu'est-ce qui explique la différence? Qu'est-ce qui explique le fait qu'on ait changé de visage, qu'on ait changé, qu'on se soit adapté finalement à certaines conditions locales pour ressembler à ce qu'on ressemble aujourd'hui, avec les traits qui sont les nôtres, avec la texture de cheveux, la couleur de cheveux, la couleur de peau, les yeux qui sont les nôtres? Ben, c'est évidemment des adaptations qui sont très, très, très rapides, qui sont apparues tout à fait récemment. Je sais pas si tu as vu, mais ils ont identifié des populations qui habitaient en Angleterre puis en France il y a à peu près 3000 ans. Et ce qu'on constate, c'est que c'est des populations qui étaient noires. Donc, la peau blanche elle-même est une innovation tout à fait récente. Et là, on la prend pour acquis. On se dit, voyons, l'humanité... si on reprend l'image classique là, de l'évolution humaine qui part du singe, qui s'en va vers l'être humain,
l'homme blanc,
tout à coup, on voit c'est blanc dès le départ. Ouais. Alors que c'est probablement la dernière chose qui arrive dans l'évolution, c'est la couleur de la peau blanche.
Ouais, c'est vraiment intéressant, ça.
Qui apparaît, évidemment, pour pallier le manque de vitamine D. Donc, on sait que la mélanine sur la peau bloque les rayons du soleil et empêche l'absorption de la vitamine D. C'est pratique dans les climats ensoleillés. C'est pas pratique dans les climats peu ensoleillés où il y a des longs hivers comme dans le nord. Donc, la peau blanche serait un mécanisme d'adaptation pour permettre plus d'absorption de vitamine D.
C'est un nod à la couleur. Qu'est-ce que tu fais? J'aime ça.
Ben, écoute, chaque couleur a une fonction importante. Donc, la peau blanche émerge à un moment donné pour ces raisons-là. Et dès le moment où on voit des populations blanches descendre plus au sud, ça prend pas beaucoup de temps que tout à coup, on retrouve des couleurs de peau plus foncées. C'est arrivé à plusieurs endroits dans le monde. D'ailleurs, les Amérindiens qui se trouvent à l'équateur ont une peau plus foncée que les Américains qui se trouvent aux extrémités de l'Amérique. Donc, c'est la même population qui est arrivée il y a 12 000 ans en Amérique. Donc, on peut voir que c'est un effet qui est pas très très long à voir apparaître à l'échelle d'une évolution. Donc, c'est vrai pour la couleur de la peau, c'est vrai aussi pour les autres traits qui distinguent les populations. C'est des adaptations récentes, des adaptations locales, environnementales, mais qui peuvent aussi être liées à la sélection sexuelle. C'est-à-dire qu'un groupe peut lui-même privilégier des caractères, le fait d'avoir des cheveux lisses ou frisés, le fait d'avoir des yeux bleus ou foncés, notamment la question des yeux bleus, où on n'a jamais trouvé à quoi ça pouvait bien servir pour la survie, mais on imagine que ça pouvait avoir une fonction de sélection sexuelle, c'est-à-dire que les gens qui avaient des yeux bleus étaient considérés comme étant attirants, et donc que ces gens-là ont pu se reproduire un peu plus que les autres, et donc pour certaines populations, ils ont pris finalement la place.
Fait que c'est vraiment la place de la culture qui vient aussi teinter...
Tout à fait. On sait aussi que l'élevage a transformé radicalement les populations qui vivaient de la proximité avec les animaux. La digestion du lactose aussi, c'est une innovation qui est présente dans certaines populations d'éleveurs et absente d'autres populations du globe. Donc, on digère le lactose à l'état quand on est enfant, parce qu'on est allaité par la mère, mais au fil du temps, on perd cette capacité-là. Donc, on n'est pas fondamentalement fait pour boire du lait. Mais c'est arrivé que tout à coup, il y a des populations qui développent cette capacité-là de le faire et que ça soit utile. C'est pour ça que ça a été sélectionné et que ça perdure encore aujourd'hui. Donc, toute cette diversité-là qui nous apparaît tellement grande et tellement complexe, au final, c'est microscopique comparativement à ce qu'elle pourrait être. Et quand on regarde les gorilles, on a l'impression qu'ils sont tous pareils. Si on regarde les tigres, on a l'impression qu'ils sont tous pareils. Si on s'y intéressait avec le même regard que celui qu'on porte sur l'être humain, on verrait les variations locales qui sont autrement plus importantes que celles qui sont présentes chez l'être humain.
Et sur cette question-là aussi de l'humanité en tant que telle, puis qu'est-ce que j'aime aussi qu'est-ce que tu nommes que je trouve intéressant, c'est aussi la notion de dire qu'il y a tellement de choses. En fait, c'est qu'on porte le regard sur certains points précis, puis on en délaisse d'autres qui sont peut-être finalement des points qui sont aussi très intéressants et même
qui sont peut-être plus rassembleurs pour nous en tant que qu'espèce, qu'humanité en tant que telle. Puis ça, je pense que c'est important de le nommer parce qu'il y a, cette notion-là qu'on oublie beaucoup. Tu sais, on en parle aussi en intro, la différence, la manière de s'identifier face à l'espèce de... Tu sais, on parle tout le temps de revisiter l'idée là, de groupe, tu sais, d'ensemble. Et qu'est-ce que tu nommes là? Pour moi, c'est exactement ça. C'est de dire que on n'est pas si différent que ça, puis faut pas l'oublier. Tu sais, dans un monde aussi que, comme tu disais tantôt avant d'aller en pause, que on a beaucoup plus en commun avec quelqu'un qui vit à l'autre bout de la planète, puis que grâce aux technologies de communication, on a finalement le rapport à l'identité est peut-être on l'a perverti d'une certaine manière parce que on est beaucoup plus semblable par nos pratiques, nos valeurs, nos mœurs, notre culture en tant que telle que le reste.
Mmh. Je pense que c'est important de dire qu'il n'y a pas de bonne manière de fabriquer des catégories.
Ouais.
C'est toujours des manières qui font sens pour à une certaine raisons. Époque, ouais. Pour un certain groupe, dans un contexte particulier. Mais il n'y a rien dans la nature qui nous amène à pouvoir mettre des frontières très, très claires. Puis que ça soit des frontières qui soient obligées. Même l'espèce, on a l'impression que l'espèce, s'il y a une affaire de réel, c'est bien l'espèce, tu sais. On peut se reproduire ou on peut pas se reproduire. C'est ça le critère qui permet de savoir est-ce qu'on est dans des espèces différentes ou pas. Mais on se constate que ce critère-là de la reproduction est lui-même problématique.
Ah ouais.
Un lion se reproduit avec une tigresse, ça donne un ligre. Donc, c'est potentiellement deux espèces, mais qui peuvent se reproduire entre elles. Donc, est-ce que vraiment le lion et le tigre sont des espèces différentes ou au contraire font partie d'un supra-espèce de lion-tigre? C'est une question qui est difficile. L'être humain lui-même, est-ce que c'est une espèce différente de l'Homo sapiens, est-il différent d'homme de Néandertal sur le point de vue de l'espèce? Est-ce qu'il est différent du chimpanzé? Puis, si on regarde la proximité génétique entre le chimpanzé et l'être humain, on a tellement en commun que potentiellement, il y a des espèces qui sont plus diversifiées que ça, qu'on a identifiées comme une espèce, que nous et chimpanzés dans nos différences. Donc peut-être faut repenser même la notion d'humanité. Donc il y a pas de bonne façon de créer ces différences là, de bonne façon de les nommer ou de manière qui est plus scientifique qu'une autre. Il y a rien qui est plus non plus moral.
Ouais.
On vit avec des principes dont on hérite, puis l'égalité entre les êtres humains en est un. Donc pour nous on juge les façons de se traiter les uns les autres à l'aune de la morale qui est l'humanisme, qui présume, qui veut, qui postule la commune humanité et l'égalité entre tous. Mais c'est une manière très contextuelle de diviser les choses que moi je trouve bonne. Soit dit en passant, là, je dis pas ça pour la critiquer.
Exact, faut que tu mettes tes couleurs, là.
Ben, on est de son époque puis on vit avec les valeurs qui sont les nôtres. Moi, je la trouve pertinente, l'égalité entre les êtres humains comme valeur. Mais c'en est une qui est pas présente dans rien que la nature nous donne à interpréter. Donc, c'est une manière de s'organiser que les humains ont choisi puis qui s'est développée au fil de l'histoire. Donc, dès le moment où on se met à regarder ça avec un peu de recul, tout ça devient soit très, très simple, soit très, très, très complexe. Donc, d'un point de vue de la simplicité, là, nous avons des différences qui sont situées à plein de niveaux, mais qui sont tellement insignifiantes que ça vaudrait peut-être même pas la peine d'en parler.
De s'y attarder, exact. Mais c'est ça qui est intéressant, puis c'est pour ça aussi que moi je voulais que tu viennes parler de ça, étant donné que tu m'avais parlé de ton projet aussi de faire une présentation, deux présentations en fait pour l'UPOP, c'est que aussi à l'heure actuelle, on entend beaucoup dans des discours politiques, tu sais, je parlais tantôt de ça comme c'est instrumentalisé comme savoir, comme connaissance, puis on utilise ces principes-là en fait basés sur la science ou même la manière de distinguer l'autre, et il y a cette idée-là aussi qu'on entend puis qu'on voit là dans les médias ou que même dans les partis politiques, on fait en fait de la récupération sur cette idée-là d'identité, de comment distinguer l'autre, l'inconnu, ou de se mettre aussi de créer un clivage finalement. Puis je pense que ça, c'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'on est parti de loin là sur l'histoire de l'identité, sur la critique de la race aussi, parce que c'est quelque chose, comme tu dis, qui est qui est pas nécessairement tangible. On est capable d'identifier des choses, mais encore là, comme tu l'as dit, c'est tout lié à des principes de vérité qui, pour l'instant, sont valables, mais encore jusqu'à un certain temps, étant donné aussi que c'est un construit qui est en mouvement, qui se lui-même va peut-être un jour s'invalider, puis que pour l'instant, pour certaines personnes, c'est valable. Mais comme tu dis, on est encore au balbutiement là, sur l'idée de la génétique, là, sur l'idée des tests pour décider, ou même peut-être valider ton bagage génétique ou tes origines. T'sais, c'est ça qui est nécessaire, je pense, de renommer pour les gens qui viennent d'embarquer avec nous là, sur cette émission-là. Là.
Pour te donner un exemple du caractère tout à fait fabriqué et tout récent de nos catégories, voilà pas si longtemps, les Irlandais eux-mêmes étaient considérés comme n'appartenant pas à la race blanche. Dans les écrits racistes du début du 20e siècle, on lit que les Blancs ne comprennent pas parmi eux les Irlandais, les Italiens, les Espagnols, les Grecs. Donc, les Juifs. Donc, c'est arrivé plus tard dans le 20e siècle qu'on, tout à coup, pour s'opposer à quelqu'un d'autre, on décide de ouvrir un petit peu les frontières de ce qu'on appelle la race blanche ou la race caucasienne dans cette littérature-là. Donc, ça, c'est tout à fait intéressant. Il y a une historienne américaine, Neil Painter, qui a écrit l'histoire de la race blanche. Et donc, je trouve ça fantastique parce que c'est une femme noire qui écrit l'histoire de la race blanche, alors que pendant toute l'histoire qu'on connaît, c'est des hommes blancs qui ont écrit l'histoire des Noirs, tu sais. Et donc, on s'attend à ce que les Noirs écrivent l'histoire des Noirs, mais quelles compétences ont-ils pour parler des Blancs? Et je trouve que c'est un beau pied de nez, justement, à l'Académie que de renverser ces positions-là. Et ce qu'elle démontre dans son livre, justement, c'est que ce qu'on appelle la race blanche est très fragile d'un point de vue historique. Tu sais, ça a eu tellement de redéfinitions, puis il y a tellement de contestations que si aujourd'hui on a l'impression que c'est tout à fait évident, là, qu'est-ce qu'un blanc, puis qu'est-ce qu'un noir, ben pendant longtemps ça l'a fluctué, on a englobé, on a exclu.
Parce que j'imagine qu'au Québec même, par le passé, il y a des moments qu'on s'est accommodé en incluant dans l'idée de blanc certains groupes en disant oh, vous maintenant vous êtes blanc, puis que comme tu dis il y a des moments où aussi on en a tassé d'autres, c'est en mouvement.
Tout à fait. D'ailleurs, on nommait clairement au début du 20e siècle les Canadiens français comme une race qui était différente de celle des anglophones.
Oh ouais.
Donc c'est d'ailleurs Lionel Groulx qui avait écrit un roman qui s'appelle L'appel de la race. Donc c'est présent dans plein d'écrits du Canada français, en tout cas cette idée là que la race est basée sur le fait d'être francophone et catholique. Ah. Donc les francophones non catholiques ne font pas partie de la même race que les francophones catholiques. Donc on voit à quel point on travaille sur du mou là. Ouais. Tu sais, c'est le sol est instable. On trace un peu grosso modo une frontière là. Mais c'est ça qui me fait rire quand je lis Mathieu Bock-Côté, comme on en a discuté la dernière fois, où il parle toujours de la majorité historique francophone. C'est la même catégorie, c'est la même découpage que celui de Lionel Groulx au début du 20e siècle, où on parle de la race canadienne française. Donc, cette majorité historique francophone, elle me fait peur quand on la nomme puis qu'on l'invoque, ou quand un premier ministre dit « parce qu'au Québec, c'est comme ça qu'on vit ».
Exact.
Moi, j'ai l'impression que là, à ce moment-là, on est en train de travailler sur les frontières, puis d'englober et d'exclure, de déterminer qui est apte à faire partie du nous et qui n'est pas qualifié pour le faire.
Ouais, puis cette idée-là aussi, je pense que c'est rassurant pour certaines personnes, mais qu'est-ce que tu nommes aussi, c'est intéressant parce que tu dis aussi que cette idée-là de race est instrumentalisée à toutes les sauces, puis tu l'as dit aussi, t'as pris l'expression, tu sais, c'est quelque chose de mou, tu sais, qui est malléable, on peut jouer avec la forme, tu sais, mais que après, moi, qu'est-ce qui me sidère, je peux dire, c'est que on utilise ça pour après mettre des lois, encadrer les choses par la structure, finalement, par même le pouvoir, indirectement, l'utilise pour contrôler les populations, pour permettre à des gens d'accéder à des positions de pouvoir ou même à des postes. Il y a encore tout ça, je trouve, qui est intéressant. C'est que quelque chose qu'on n'est pas sûr, on le modèle, ben en fait, on le façonne pour finalement justifier des pratiques réelles qui ont des impacts sur la vie des gens.
Tout à fait. Puis le meilleur exemple, c'est la loi sur les Indiens, tu sais, de 1863, mm-hmm. le Canada qui écrit dans une loi qui l'écrit noir sur blanc, qui décrète l'infériorité aux yeux de la loi de tout un groupe, ouais. qui est le groupe des Autochtones au Canada. Et c'est une loi qui a encore résonance aujourd'hui, qui donc qui détermine un certain nombre de droits qui sont donnés à un groupe et qui, évidemment, ne sont pas les mêmes que ceux des autres citoyens. Donc, c'est très, très problématique, cette idée-là, justement, de tracer ces lignes-là. Au Canada, c'est un régime qui est globalement libéral. Là. Les autres populations, si on fait fi des Amérindiens, les autres populations sont théoriquement soumis aux mêmes droits en tant que citoyen. Ce qui est pas nécessairement vrai dans la vie pratique, là, comme on l'a vu dans Noir sous surveillance. Mais pour les Amérindiens, on est dans un régime qui s'apparente beaucoup à celui de l'apartheid, où il y a effectivement des frontières claires entre qui sont les citoyens et quels sont leurs droits, et qui est ce groupe particulier, et quels sont ses droits, qui sont pas les mêmes. Qu'il y a aussi des contraintes particulières à ce groupe-là. Donc, on vit avec cet héritage-là. Puis c'est ça m'apparaît extrêmement difficile comme statu quo. Mais en même temps, toute transformation amène des bouleversements dans la structure même de nos relations. Parce que est-ce qu'on veut tout ouvrir pour, après ça, imposer un certain libéralisme de l'identité à tout le monde? Je pense que c'est même pas ça qui est défendu par les groupes autochtones eux-mêmes. Eux tiennent à leurs frontières identitaires, puis c'est des mécanismes qui sont utilisés justement pour déterminer qui peut légitimement vivre sur une réserve. Puis c'est vrai à Kanawagé, c'est vrai à Kanasetakee, qui est tout à fait légitime pour vivre, qui a la permission de vivre sur le territoire de la réserve et qui n'a pas de droit de le faire. Et ils le font pour des raisons qui sont tout à fait louables de leur point de vue, ouais. de préservation de leur identité et de leur culture, mais elle se fait en prenant appui sur la vieille loi raciste de 1863.
Exact, c'est ça. Ils l'utilisent finalement à leur propre fin.
Mais c'est faute de d'autres moyens.
Ouais. Parce que on va en parler après la pause, parce que c'est vers là que je voulais qu'on parle d'une forme de résistance face à les identités, de peut-être même de se blinder avec des textes de loi ou même des idées pour nous-mêmes justifier nos pratiques, nos manières. Le sujet de la semaine pour la première vraie émission de Savoir commun pour la deuxième saison pour cet hiver 2020, on parle de la critique de la race, en fait, sur l'identité et les frontières qu'on crée autour de cette notion d'identité qu'on essaie de rendre valable puis de peut-être justifier certaines pratiques. Et aussi, avant de continuer sur le sujet, j'aimerais aussi souligner à nos auditrices et auditeurs que Mathieu va présenter dans le cadre de l'UPOP, en fait, Université populaire de Sherbrooke, deux conférences qui n'ont pas encore de date, ni de lieu, ni d'heure. Mais en fait, je vous invite à suivre la page de l'UPOP sur Facebook ou la page de Savoir commun aussi sur Facebook pour avoir les détails. Et je voulais aussi nommer que les ouvrages qu'on a indirectement abordés vont être aussi présentés sur la page Facebook pour que vous puissiez avoir aussi des références si vous avez trouvé ça intéressant, vous avez le goût d'approfondir un peu plus les connaissances sur le sujet. Alors, on parlait, Mathieu, avant d'aller en pause, que il y a des groupes, on parlait des Amérindiens qui eux utilisent des textes de loi qui ont été écrits dans le passé pour défendre leur propre identité. Et c'est vers là que je voulais aller, sur cette idée-là de résistance, cette manière-là de presque d'autonomie et d'affirmation de certaines populations, de certains groupes. Puis j'aimerais savoir si t'as des exemples ou même on peut continuer de parler des Amérindiens ou qu'il y a cette notion-là de dire nous on se base sur des choses qui sont réel, les textes de loi, comment on encadre les pratiques, comment on distingue les individus. Et je voulais savoir si pour toi, dans tes lectures, il y a ça, en fait. Il y a des groupes qui décident finalement de dire, ben nous, on va le réutiliser à notre manière, puis pour affronter finalement la domination en fait des dominants sur eux.
C'est très intéressant comme question parce que d'un point de vue anthropologique, on travaille à déconstruire les identités, on travaille justement à miner cette idée-là qu'il existe des essences qui font de nous des Blancs, qui font de nous des Québécois ou des Canadiens français, qui font de nous une identité particulière. Mais dès le moment où on rencontre des groupes minoritaires qui sont en situation de résistance, là, tout à coup, l'identité, elle ne veut pas être déconstruite parce que ça affaiblit nécessairement aussi la capacité de lutte. Donc, pour les groupes autochtones, pour les groupes afro-américains, pour les groupes indigènes un peu partout sur la planète, l'identité, et l'identité de manière essentielle, est un instrument de lutte. Et c'est toute la difficulté qu'on a de vivre avec ce qui nous apparaît être la théorie qui est basée sur les observations qu'on fait, là, c'est-à-dire le caractère construit des identités, puis le fait qu'effectivement, elles sont toutes liées à des histoires particulières, donc fragiles. Mm-hmm. Et le soutien moral, l'engagement qu'on peut avoir vis-à-vis certaines populations qui, au contraire, se servent de ces catégories-là pour s'émanciper, pour donner un sens aussi à leur existence. Donc, on est un petit peu pris entre les deux positions, c'est-à-dire de bien rendre compte de la théorie la plus à jour et de bien porter la voix des groupes que l'on côtoie au jour le jour. Par exemple, tu sais, on le voit dans les luttes autochtones, mais aussi dans les luttes afro-américaines aux États-Unis, il y a toujours ce combat-là entre l'humanisme qui est porté majoritairement par les Blancs, qui dit « il n'y a pas de race, tu sais, il n'existe ni Blanc ni Noir, nous sommes partie d'une commune humanité, arrêtons de nous nommer Blanc et Noir, plutôt, tu sais, allons de l'avant, puis faisons sauter ces frontières-là qui sont inutiles. » Puis, je veux dire, c'est la position intellectuelle par excellence. C'est celle d'Amin Maalouf aussi dans Les Identités meurtrières, qui dit pourquoi s'embêter avec les identités? Nécessairement, nous sommes tous des identités métisses et complexes, donc on devrait plutôt aller vers notre commune humanité. Ce qui est tout à fait raisonnable, oui. Et c'est la position humaniste, mais c'est la position privilégiée aussi, c'est de ça. Dire les races n'existent pas, parce qu'effectivement, dans la pratique, elles sont constamment rappelées à la personne qui...
Dans le réel, exact,
est
c'est ça.
Identifiée par sa race, qui est racisée, qu'il ne fait pas partie du groupe majoritaire, qu'il fait partie d'un groupe qui est particulier, auquel on associe...
On attribue,
tout,
ouais.
Toutes les torts, tous les problèmes. Et donc, ça veut dire des arrestations, ça veut dire des menaces pour sa propre existence, etc. Ça a été... notamment décrié par James Baldwin quand il a été interviewé, puis à un moment donné, il y a l'intellectuel à côté de lui qui dit « les races, on devrait juste s'en débarrasser puis aller de l'avant ». Baldwin dit « les races ne pourront jamais disparaître. Mm-hmm. Elles sont là pour rester, regarder la société dans laquelle on vit. » Puis c'est quoi les dangers de cet aveuglement volontaire face aux effets de la race? Puis c'est toute la critique du colorblindness aux États-Unis.
Ouais.
Tu sais, moi, je suis colorblind. Je vois pas les différences entre les Blancs et les Noirs parce que je suis un humaniste, puis j'embrasse tous les humains de la même manière. Ben, cette politique-là, cette manière de faire de la politique qui n'accorde pas une attention particulière aux groupes discriminés, ce qu'elle fait en sorte, c'est qu'elle reproduit,
exact, c'est ça,
la discrimination que subissent ces groupes-là. D'où la nécessité pour les mouvements afro-américains de se lever en tant que noir, et non pas en tant qu'humain, de se lever en tant que noir. Puis quand ils sortent dans la rue puis ils disent « Black Lives Matter », c'est pas dire « nous valons plus que les autres », mais « n'oubliez pas que nous sommes là,
exact,
et que
ça.
Nous avons actuellement des taux de décès qui sont catastrophiques, des taux d'emprisonnement qui sont démesurés et qui ne reflètent pas la réalité, sinon la réalité raciste et la politique raciste de ce pays-là.
Ça me souligne aussi à... En fait, je me rappelle que même Barack Obama, quand il était président, a fait des allocutions durant cette période-là un peu plus trouble, où qu'il nommait même « je nomme à mes propres enfants » la réalité, si vous avez affaire aux forces de l'ordre, même si les policiers, vous y arrive quelque chose un jour, parce que ça reste que même si ce sont les enfants du président américain, de l'ancien président américain, il nommait qu'il voulait que ses enfants comprennent cette réalité-là. Puis il y a aussi cette notion-là, je pense, qui est importante de nommer comme... Puis lui, il devait être encore, étant donné sa position de pouvoir, voir aussi ça en tant que... d'avoir cette identité-là qu'on y attribue, puis même on l'a vu durant la campagne électorale, hein, qui s'élire de cette
distorsion-là qu'on avait face à son identité.
Mais tous ces mouvements-là qui proviennent des groupes subalternes, donc qui ont été, qui sont attaqués continuellement, qui sont minorisés, qui sont finalement soumis à plus de répression que les autres, ces discours-là sont difficiles à entendre pour les majorités. Tu sais, face au mouvement Black Lives Matter, qu'est-ce qu'on a vu dans les rues? C'est le mouvement All Lives Matter.
Ouais.
Toutes les vies comptent. Parce que des policiers avaient subi de la violence. Je pense qu'il y avait un qui avait reçu un coup de feu. Donc, pendant une manifestation monstre. Donc, là, tout à coup, des mouvements principalement blancs qui se lèvent pour dire toutes les vies comptent. C'est de dire, votre voix, finalement, on a décidé de pas l'entendre. Tu sais, que le modèle qui est le nôtre, de daltonisme, de colorblindness, est meilleur que celui qui met l'accent justement sur la différence. Alors que c'est précisément pour que la différence un jour s'efface que ces mouvements-là se lèvent et dénoncent clairement qu'est-ce qu'il a,
parce que l'ignorance,
le traitement qu'il est à l'heure.
Parce que l'ignorance répète puis en fait perpétue la domination.
Tout à fait. Jean-Paul Sartre, quand il a préfacé l'anthologie de la poésie nègre de Léopold Sédar Senghor, dit le mouvement de la négritude, le fait de se nommer nègre, écrivain nègre, de la part de Aimé Césaire, de la part de Léopold Sédar Senghor, c'est un mouvement qui vise sa propre annihilation à terme. C'est pas de dire nous sommes noirs et nous allons le rester pour toujours, mais de mettre l'accent sur cette différence-là vise à un jour faire la synthèse, de rétablir cette relation-là qui est profondément problématique. D'ailleurs, Aimé Césaire, dans une de ses pièces de théâtre qui s'appelle La tragédie du roi Christophe, met dans la bouche du roi Christophe des mots qui sont vraiment, vraiment hyper puissants. Puis il s'adresse justement à ces humanistes qui disent qu'il n'existe pas de noir et de blanc et que finalement on est tous des humains. Il dit à ceux-là, je les mets au défi de vivre, tu sais, ne serait-ce qu'une seconde dans la peau d'un nègre, parce que seuls nous subissons le total outrage, le ravalement à la bête, le crachat, etc. Et donc ça, on faut en demander plus à nous qu'à personne pour sortir de ce trou-là. Donc il y a cette idée-là qu'on pourra jamais rétablir, on pourra jamais aspirer vraiment à cette utopie-là de commune humanité si on prend pas la peine de regarder justement le traitement qui est fait, que subissent les populations qui sont marginalisées, les Afro-Américains, les Autochtones, les populations autochtones en général à travers le monde. Si on se voile les yeux puis qu'on oublie puis qu'on les noie dans les statistiques, ben nécessairement, ça réglera jamais rien.
C'est vraiment fascinant ce que tu viens de dire. En fait, j'ai vraiment aimé cette partie-là qui est quelque chose qui, je pense, qu'on entend peu et que aussi, que comme tu dis, on le sait, mais qu'on est capable de le voiler. On se rend nous-mêmes aveugles de ces points-là dans le réel, parce qu'après, c'est pas nous qui le subissons. Puis c'est ça aussi souvent qu'on entend dire « Ah ouais, mais... » Puis comme tu l'as dit, c'est des statistiques, c'est des trucs. Puis après, on va aussi lier ça à des « Ah ouais, mais j'ai lu que c'est ça. » Puis après, on crée nos propres stéréotypes. Puis je pense qu'aujourd'hui, il y a cette notion-là de dire faut reconnaître ça pour finalement qu'elle s'efface, cette distance-là, tu sais. Sinon, si on fait juste dire encore, comme tu te donnais le meilleur exemple, ou que là, c'est facile d'aujourd'hui de dire, ah, mais tu sais, tout le monde a les mêmes privilèges et citoyens, même canadiens, un peu comme quand on a traité le livre Noir sous surveillance, c'était un peu ça, tu sais. Elle critiquait indirectement l'auteur l'idée que même si on pense qu'on vit dans un pays qui vise le multiculturalisme, cette idée-là d'engagement national, de vouloir inclure de tous les membres, c'est pas nécessairement dans le réel, concrètement, c'est pas nécessairement les mêmes. Il y a des phénomènes qui apparaissent, puis c'est pas le même traitement qu'on fait aux membres des autres groupes qu'on a catégorisés, tu sais, soit par les services de police que même par les institutions en tant que telles. Tu sais.
Tout à fait. Il y a beaucoup d'intellectuels, des anthropologues qui proviennent des marges, qui, eux, sont aptes à saisir les subtilités du discours des milieux d'où ils viennent, mais aussi sont capables d'en donner un sens avec les données, les informations, les théories qui ont cours aussi dans le savoir contemporain. Et c'est vraiment important de distinguer des positions politiques, des positions intellectuelles, parce que les deux sont des fois pas réconciliables. Puis ce qu'on constate, c'est qu'il y a des groupes qui sont tout à fait au courant de la fragilité de leur identité. Puis on pourrait leur reprocher, puis finalement les tribunaux le font beaucoup là. Mm-hmm. Ah, vous êtes pas vraiment les Amérindiens qui vivaient sur ce territoire-là, là 500 ans, vous devriez pas avoir de droits sur ce territoire-là. Donc on discrédite constamment la force de leur identité puis leurs revendications, et ils sont au courant de la faiblesse finalement des identités, mais d'un point de vue stratégique, vont quand même essentialiser leur identité. Donc, ce phénomène-là d'essentialisme stratégique, on le voit de plein de manières, dans plein de luttes, qu'elles soient ethniques, autochtones, raciales, ou même des luttes qui sont féministes ou des luttes qui sont pour la diversité sexuelle.
Ouais,
d'avoir des catégories qui sont claires, découpées, c'est des instruments de lutte et non pas du savoir scientifique à jour. Hein? Donc, on est constamment entre ces deux discours-là, et souvent, les deux discours, on peine à trouver une réconciliation. Alors là, donc, l'académie et les militants vont des fois être en guerre pour le pouvoir de nommer les choses. Parce que l'académie est dans la déconstruction et les militants sont au contraire dans l'essentialisme stratégique.
Alors, merci, Mathieu, de m'avoir accompagné pendant ces 90 minutes d'émission. Alors, j'aimerais que tu reviennes, en fait, cette session-ci pour traiter d'un nouveau livre avec moi. Et aussi, je voulais souligner aussi aux auditrices, auditeurs, que tu es aussi en conférence pour deux séances pour la prochaine saison de l'UPOP Sherbrooke. Mais que les dates n'ont pas été encore dévoilées, ni le moment, ni l'heure. Alors, j'invite les gens à consulter les pages de l'UPOP et aussi la page de Savoir commun. Et
ce sont des cours, hein, non pas des conférences. Donc,
faut des cours, désolé.
Je les aborde pas de la même manière.
Des cours. Est-ce qu'il faut assister au cours 1 pour faire le suivi du cours 2?
Même au cégep, des fois, j'ai des étudiants qui ont manqué des cours et qui suivent mes cours. Je m'arrange pour qu'il y ait un rattrapage qui soit fait, pour que personne perde le propos.
Alors, merci Mathieu d'avoir passé ce moment-là avec nous pour discuter, en fait, d'un sujet qui était vraiment intéressant, toute la critique de la race et aussi l'idée de l'identité.